À la une, le tapis rouge de la honte.
Le walk of shame, comme l'appellent les Américains, ce tapis rouge de la honte qui attend les personnalités soupçonnées de crimes et jetées en pâture aux caméras, nous explique le Figaro. Ce tapis rouge de la honte, donc, auquel Paul Manafort aura tenté d'échapper en se rendant hier de son plein gré au FBI. Une vaine tentative présentée à un grand jury, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump est inculpé de complot dans l'affaire des ingérences russes. Il n'est pas le seul. Deux autres personnalités l'accompagnent dans cette galère. La version 3.0 du Watergate pour la nouvelle République du Centre avec ses avocats marrons, ses conseillers pourris et l'argent poisseux. Et même si Paul Manafort n'est pas directement suspecté de collusion avec Moscou, la personnalité de la cheville ouvrière de la victoire du milliardaire mérite qu'on s'arrête sur son cas en particulier. Le titre du site Huffington Post est à ce sujet plein de promesses. Qui est Paul Manafort, lobbyiste chevronné et ex-consultant de Balladur? À la lecture de l'article, on comprend que Manafort et la politique version républicaine, en l'occurrence, c'est comme Astérix et la potion, il est tombé dès son plus jeune âge dedans. De Ford à Bush, en passant par Reagan, Paul Manafort a offert ses services aux locataires de la Maison Blanche. En 1980, il cofonde un cabinet de lobbying politique et c'est notamment via cette entreprise qu'il commencera ses affaires avec Trump. Fort de son expérience glanée chez l'oncle Sam, Paul Manafort offre alors ses services à l'étranger. Et en particulier en France, nous raconte le Huffington Post, à une époque où Édouard Balladur se sent pousser des ailes présidentielles. Et voilà comment alors le nom de l'Américain se serait retrouvé au bas d'un faux contrat d'après Mediapart ayant servi au versement de rétro-commissions dans la fameuse affaire Karachi. Et la lecture du CV de Manafort ne s'arrête pas là. D'autres noms d'illustres clients apparaissent, le Zaïrois Mobutu, le Philippin Marcos, d'où ce surnom que lui a donné l'Organisation des journalistes d'investissement aux États-Unis, le lobbyiste des tortionnaires. Aujourd'hui, dans le cadre de l'enquête russe, plusieurs questions se posent, comme le résume Libération. Paul Manafort détient-il des informations compromettantes sur le président et son entourage, en particulier sur une possible collusion avec la Russie? Si oui, le procureur spécial pourrait-il lui offrir une peine allégée en échange de sa coopération? Preuve que le sujet préoccupe l'administration Trump plus qu'elle ne le dit. Le président s'est réuni hier à huis clos avec les avocats de la Maison Blanche.
La fuite de Varennes, version catalane, très commentée aussi ce matin par la presse.
C'est le Figaro qui l'appelle comme ça, référence à cet épisode de la Révolution française au cours duquel Louis XVI et sa famille ont tenté de mettre les voiles. Mais si le roi de France n'a pas été bien loin, Carles Puigdemont a lui réussi à rejoindre la Belgique. Une fuite bien préparée, comme nous le raconte le site du Point. Le président de l'exécutif catalan a en effet gagné Marseille en voiture et de là a pris un avion pour Bruxelles. En début de matinée, Puigdemont hier poste un tweet sur Twitter, une photo de la Généralitat qui donne alors à penser qu'il est à ce moment-là dans son bureau. Quelques heures plus tard, l'un de ses conseillers affirme même l'avoir rencontré à Barcelone dans la matinée. Tout a été fait pour donner l'impression que le gouvernement catalan était encore en exercice, résume l'article du Point. Une échappée belge dont le but pourrait être, selon les médias catalans, une demande d'asile politique. Le site de la Libre Belgique nous apprend d'ailleurs ce matin que Carles Puigdemont s'est entretenu avec un avocat spécialisé des droits de l'homme et des questions d'extradition. Le secrétaire d'État à l'asile et aux migrations belges, un nationaliste flamand, estime lui qu'une protection de la Belgique pour Puigdemont n'est pas, je cite, irréaliste lorsqu'on regarde la situation actuelle. La colère de Madrid a été immédiate. Le Premier ministre Charles Michel demande à son ministre de ne pas jeter de l'huile sur le feu. La crédibilité internationale de la Belgique est en jeu, lui répond Elodie Rupo, le président du PS. Et ce matin, la Libre Belgique titre ainsi « Pourquoi la Belgique ne devrait pas accorder l'asile à Puigdemont ?»
Pendant ce temps, en France, vieux partis politiques cherchent second souffle.
Comme nous l'explique le journal L'Opinion à sa une avec le très juste surtitre « Introspection ». Sonnés par leurs défaites électorales, les partis traditionnels se tournent vers leurs militants pour tenter de rebondir. Un retour à la base, le phénomène n'est pas nouveau, il s'est accentué cependant, explique un politologue à l'Opinion. Ça s'appelle Forum de la Refondation au PS. Le FN, lui, s'apprête à envoyer des questionnaires à ses militants dont la perspective du congrès de mars. À droite, ce sont les ateliers de la Refondation qui doivent permettre aux Républicains de relever la tête. Parti plombé par ses fantômes, les Républicains d'après le Parisien, Sarkozy, Sarkozy, NKM, Châtel, Baroin. Il suffit de passer devant les photos accrochées sur les murs pour voir l'ampleur du désastre, résume un permanent. Ils se sont effondrés, tous, sauf Wauquiez, tacle un autre. Le favori dans la course à la présidence du parti qui a suscité la colère de ses deux compétiteurs en proposant un débat seulement devant les militants. C'est encore à lire dans Le Parisien quand Libération, de son côté, fait les comptes et dément les démentis du FN. Depuis les élections de 2014, le quotidien l'assure, le parti de Marine Le Pen a subi une hémorragie de conseillers municipaux. Sur 1581 portant l'étiquette FN au sortir des élections de mars 2014, 534 ont depuis cessé de siéger pour le parti d'extrême droite, 1 sur 3. Le chiffre est considérable, écrit Libé.
Libération, enfin, qui revient sur les nouveaux hashtags qui font un malheur sur les réseaux sociaux.
Montre ta croix et touche pas à ma croix, petite ou majestueuse, croix de bois ou croix de fer, dans tous les coins de France et de Navarre, des images de ce symbole de la chrétienté ont fleuri sur les réseaux après la décision du Conseil d'État ordonnant le retrait de la croix de bronze qui surplombe l'arche encadrant une statue de Jean-Paul II érigée à Plohermel, commune de 9000 habitants dans le Morbihan. À l'origine de la procédure, la Fédération Morbihanaise de la Libre Pensée. L'affaire a fait réagir jusqu'aux plus hautes instances de Pologne. Le gouvernement polonais tentera de sauver la censure, le monument de notre compatriote, et nous proposerons de la transférer en Pologne, a fait savoir samedi la première ministre polonaise. Mais qu'en pense-t-on à Plohermel de cette polémique et de ces hashtags? C'est sans doute là la partie la plus délicieuse de toute cette histoire. Personnellement, croix ou pas croix, je m'en fiche complètement, lâche le patron d'un café. Ses clients approuvent et il rajoute beaucoup de bruit pour pas grand-chose.
C'était la revue de presse de Mickaël Ponge.